à voix nue, Caroline Brouet,
Sylvie Berman, ambassadrice de France.
Cinquième épisode, quelle diplomatie pour quel monde ? Bonjour Sylvie Berman.
Bonjour Caroline Brouet.
C'est le dernier temps, déjà, de ces 5 entretiens. Je vous propose de parler pour ce dernier épisode de votre expérience onusienne. Elle a été importante, elle a été longue. Et partant de votre regard sur le nouvel ordre, ou peut-être peut-on dire le nouveau désordre international. Là encore en deux temps, hein, votre expérience, une première période de 92 à 1996, comme première conseillère à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies, puis une seconde de 2005 à 2011, en tant que directrice des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie. On se remet dans le contexte, en 1992, vous sortiez de la signature en 91 des accords de Paris sur le Cambodge que vous avez contribué à négocier. Est-ce que vous diriez que c'est là que vous avez découvert la négociation diplomatique à grande échelle, disons ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a deux types de diplomatie. La diplomatie bilatérale, donc quand vous êtes affecté dans un pays, c'est assez clair. Et puis vous avez la diplomatie multilatérale, qui est faite de négociations. Et c'est grisant aussi, la négociation. Donc j'en avais fait l'expérience avec la conférence de Paris sur le Cambodge, qui n'était pas facile, puisque il a fallu convaincre les Chinois de lâcher les Khmers Rouges. Et en même temps, on négociait avec les Khmers Rouges aussi. Mais on avait commencé en 89. En 89, ce n'était pas mûr. Et la conférence s'est achevée. Donc, on a suspendu, on a continué par des réunions au niveau des 5 membres permanents du Conseil de sécurité dans le monde entier, y compris à New York. C'est comme ça que j'ai ensuite été affectée à New York. Et la négociation a été possible parce que on sortait de la guerre froide et l'entente était bonne avec toutes les délégations des membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc les Chinois ont été assez conciliants. Donc la négociation, c'est aussi une question de temporalité ou de timing, comme on dit en anglais. Et j'ai fait la comparaison des années plus tard, quand j'ai été médiatrice de l'OSCE dans le conflit du Donbass, où j'ai présidé le groupe politique, enfin les négociations pour le retour du Donbass dans l'Ukraine. Et en fait, c'était beaucoup plus difficile que de négocier avec les Khmers Rouges. Mais parce que à ce moment-là, personne n'était prêt à la négociation ou à conclure. C'est pour ça que l'expérience que j'ai eue entre la première conférence de Paris que nous avons dû suspendre, et puis finalement la possibilité de la conclusion d'un accord, montre qu'il y a aussi des facteurs extérieurs et pas seulement les compétences du négociateur. Mais néanmoins, j'ai découvert à ce moment-là la négociation multilatérale, parce que on avait obtenu, à mon niveau, j'étais sous-directeur à l'époque, et finalement on avait obtenu le cadre de ce qui serait ensuite les accords de Paris dans une négociation à Washington avec les 5, et notamment ce qui était le plus dur, c'était avec les Chinois sur la partie Khmer Rouge. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et puis en même temps, c'est très satisfaisant d'aboutir à un accord qui était un accord de paix et qui a permis à ce pays d'être réintégré dans l'Asie du Sud-Est et puis dans le monde, parce qu'il y avait cette aberration des Khmers Rouges qui occupaient le siège aux Nations Unies. Et puis la réalité sur le terrain, où c'était Hun Sen, donc qui était l'homme des Vietnamiens qui dirigeait le pays. Donc ça a été une grande satisfaction. On a mis en place ensuite la plus grosse opération de maintien de la paix, et ça m'a donné le goût des Nations Unies. Donc on m'a proposé ce poste à l'époque. Donc 92, fin de la première guerre du Golfe, donc fin de la guerre froide, et donc il n'y avait plus de veto. Et il y avait une grande entente entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, y compris donc les Russes et les Chinois. Et il y a eu à l'époque ce qu'on a appelé le Big Blue Dream, c'est-à-dire le grand rêve bleu, où on pensait que les casques bleus, l'ONU, allaient régler tous les problèmes du monde et que ça serait la paix perpétuelle. Et je me souviens qu'on négociait des opérations de maintien de la paix, mais quasiment en une semaine, je me souviens du Mozambique en particulier, on se préoccupait peu à l'époque des questions d'intendance. Hein. C'était vraiment l'idée que l'intendance suivrait, qu'on trouverait le budget. Il y a eu une opération en Somalie, qui était la première opération, en fait, fondée sur le droit d'ingérence, parce que c'était un pays qui était dans une anarchie totale, la pauvreté, et donc le secrétaire général du Conseil de sécurité, qui était Boutros Ghali à l'époque, l'a recommandé. Il a souhaité d'ailleurs qu'on traite plus des questions africaines que des questions européennes. Il considérait que la Bosnie, c'était essentiellement une guerre de blancs à l'époque. On a créé donc de nombreuses opérations. Et puis, en fait, ce rêve s'est quand même fracassé sur la Bosnie, les massacres de Srebrenica, où les Nations Unies n'ont pas pu faire respecter leur mandat. Et puis surtout, le génocide au Rwanda. Et c'est un dossier dont j'étais chargée aux Nations Unies et bon, qui m'a beaucoup marquée. Et là, ça a été, alors on dit toujours l'impuissance des Nations Unies, mais les Nations Unies, c'est les États membres. À ce moment-là, il n'y avait pas d'accord pour rester sur place et empêcher les Interahamwe et Hutu de poursuivre ce massacre. Et il y a eu de nombreux débats par la suite sur ce qu'était la légitime défense pour une opération des Nations Unies. Et le représentant, le jurisconsulte des Nations Unies avait dit, en réunion du Conseil de sécurité dont je me souviens bien, il a dit « la légitime défense inclut le mandat ». C'est-à-dire que pour imposer le mandat, les casques bleus auraient pu utiliser leurs armes, ce qu'ils n'ont pas fait. Bon,
Ils auraient dû.
Je pensais qu'ils auraient dû, en fait. Mais il y a eu une telle panique à ce moment-là, une telle sidération, que ce qui a été décidé, c'est de retirer la mission et de maintenir 200 hommes qui d'ailleurs sont allés en Ouganda. Mais on a fait une opération d'évacuation, l'opération Amaryllis. C'est la France qui avait pris le lead. Pendant 48 heures, les combats s'étaient arrêtés et les Rwandais pensaient que voilà, la guerre allait s'arrêter, qu'on venait à leur secours. Et ensuite, les étrangers ont été évacués et le génocide a continué.
Vous avez négocié aussi l'opération française turquoise ?
Absolument.
Ça veut dire quoi ?
L'opération turquoise, il y a eu beaucoup de questions ensuite sur le but de cette opération. Certaines ONG y étaient favorables. Turquoise, c'était justement pour mettre fin au génocide, mais c'est arrivé très tard. Et il y a eu ensuite des interrogations sur l'opération. Moi, je l'ai négocié, bien évidemment, en toute bonne foi. Je me souviens être sortie de la salle parce qu'il n'y avait pas les téléphones portables pour aller dans les cabines à côté pour dire que la résolution avait été votée avant même les explications de vote.
Vous dites en toute bonne foi. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, rétrospectivement, que vous avez pu faire preuve de naïveté ?
Non, parce que je pense que encore une fois, je pense que surtout cette opération était très tardive et puis en même temps, évidemment, c'était compliqué qu'elle soit dirigée par la France. Mais enfin, elle a été acceptée par les autres membres du Conseil de sécurité et il n'y a rien dans la résolution qui est contraire aux droits de l'homme ou aux principes de paix et de sécurité.
Qu'est-ce que vous gardez, Sylvie Berman, de ce moment ? Vous êtes passé assez vite, et c'était le cas entre 92 et 96 en fait, hein, parce que c'était rapide, de ce grand rêve bleu des opérations de maintien de la paix à ces tragédies qu'ont été effectivement la Bosnie et ensuite le génocide des Tutsis au Rwanda. Vous en gardez quoi ? Une forme d'amertume ? Vous dites que au-delà de l'impuissance de l'ONU qui se perpétue malheureusement aujourd'hui, c'est un échec de ce qu'on appelait encore la communauté internationale. Qu'est-ce que vous ressentez en fait ?
Oui, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'amertume, mais de tristesse et de déception, incontestablement. Mais surtout, j'ai vu très vite à New York, cette période quasiment de 4 ans, le désintérêt pour les Nations Unies après ça. C'est-à-dire que la France était le premier contributeur de troupes aux opérations de maintien de la paix et on s'est retiré. Et les Occidentaux n'ont plus manifesté d'intérêt. Donc ensuite, c'était des troupes de pays en développement et qui allaient moins par conviction que pour recueillir des devises et qui n'avaient pas l'expertise et la compétence des troupes françaises ou britanniques, hein, très, très clairement.
Vous pensez que 30 ans plus tard, on paye encore ça ?
Est-ce qu'on paie ce désintérêt ? Mais c'est devenu de plus en plus difficile parce qu'en réalité, c'était des opérations de maintien de la paix. C'est-à-dire qu'il normalement, il y avait des accords de paix qui devaient être maintenus. Et de plus en plus, c'est devenu des guerres intra-étatiques et en réalité, il n'y avait pas de paix. Ce qu'avait dit un jour Boutros Ghali en disant « on a reproché à l'ONU d'avoir été impuissante en Bosnie », alors qu'il n'y avait pas de paix à maintenir. Et ensuite, quand il y a eu une relative paix, les troupes surarmées de l'OTAN sont arrivées. On a dit que c'était un succès. Lui aussi a eu beaucoup d'amertume. C'était un secrétaire général qui était très engagé et qui avait vraiment un programme pour les Nations Unies. Mais aujourd'hui, on le voit bien, les Nations Unies sont impuissantes à la fois dans la crise à Gaza et en Ukraine.
Mais vous pensez justement que c'est aussi dû, en partie, pas seulement bien sûr, mais à la personnalité, au charisme, à la vision de celui qui dirige, celui ou celle qui dirige l'ONU. Vous parlez de Boutros Ghali à cette époque-là comme de quelqu'un qui avait une vraie vision des Nations Unies, de l'intervention, des relations diplomatiques. Est-ce que d'année en année, ces personnalités se sont retirées au profit de personnalités peut-être moins charismatiques ou moins fortes ?
Bien, en fait, le secrétaire général est un peu le serviteur des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et Boutros Ghali a été un grand secrétaire général, mais il a été évincé par les Américains. Il n'a pas pu faire un deuxième mandat, alors qu'il avait le soutien au départ des 14 membres, mais qu'il y a eu un veto américain.
Et c'est Kofi Annan qui a pris la suite.
C'est Kofi Annan qui est très bien, d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup connu également, mais qui était peut-être plus classique, plus à l'écoute des Américains, même s'il s'est démarqué dans la deuxième période, parce qu'il était plus libre, puisqu'il n'attendait pas de réélection, en particulier sur la question irakienne. Mais on disait qu'en fait, les Américains voulaient comme secrétaire général un secrétaire plutôt qu'un général.
Vous revenez, Sylvie Berman, en 2005 à l'ONU, à la tête des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie jusqu'en 2011. Mais avant cela, entre 1996 et 2005, vous avez aussi connu la diplomatie européenne. En tant que, alors là c'est un peu long, hein, pardon, mais en tant que chef du service de la politique étrangère et de sécurité commune, en 1996, vous avez participé à toutes les conférences intergouvernementales et au Conseil européen, d'Amsterdam à Lisbonne, en passant par Nice puis Bruxelles, puis comme ambassadrice et représentante au comité politique et de sécurité créé par le Conseil européen d'Amsterdam. On peut dire que vous y avez lancé, peut-être jeté les bases d'une défense européenne, puisque vous avez lancé les premières opérations de l'Union européenne dans les Balkans et en Afrique à ce moment. Voilà, donc comme si on était aux prémices d'une défense européenne, sujet dont on parle beaucoup dans ces années 2020.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le comité politique et de sécurité avait été créé pour jeter les bases de la défense européenne et également la politique étrangère. Et là aussi, ce qui est amusant, c'est que quand j'avais pris mes fonctions à la tête du service de ce qu'on appelle la PESC, politique étrangère et de sécurité commune, on m'avait dit « Oh, c'est une boîte aux lettres, c'est pas intéressant ». Évidemment, ça a été passionnant puisque c'était les débuts. Et on a discuté d'abord des outils, des groupements tactiques, des objectifs, la mise en place des institutions militaires, le comité militaire de l'Union européenne. Moi, j'avais une grosse mission de défense dirigée par un amiral. Il y avait un colonel, il y avait une quinzaine d'officiers généraux. Donc, c'était quelque chose de très professionnel. professionnelle et on a créé les premières opérations. La toute première, c'était une opération en Macédoine, je me souviens. Et à l'époque, il y avait un grand scepticisme de la part de l'OTAN, pensant que l'Union européenne n'avait pas les outils, n'avait pas les compétences. Mais ensuite, on a créé la première opération autonome à l'initiative de la France. C'était en Ituri, en République démocratique du Congo, et pour éviter les massacres des populations. Et ça a été une opération modèle qui a été respectée par tout le monde. Et l'Union européenne est devenue un acteur reconnu par les Nations unies, qui a demandé parfois à l'Union européenne d'avoir des opérations relais avant que les Nations unies puissent prendre la relève. Ça a été le cas au Tchad, par exemple. Et puis, je voudrais mentionner aussi l'opération de Rafah, Rafah dont on parle évidemment
dans les territoires palestiniens
aujourd'hui, dans les territoires palestiniens, qui était une opération plutôt de police et d'aide au contrôle des frontières. Alors, il y avait toujours des freins parce que les Britanniques ne voulaient pas d'une défense commune, donc il fallait se battre à chaque étape. Mais en tout cas, les bases étaient jetées et la compétence existait. Alors après, c'est une question de volonté des États membres d'utiliser ou de ne pas utiliser effectivement ces moyens. Alors il a été décidé de relancer la défense européenne après le départ des Britanniques. Plusieurs initiatives européennes de défense et également un fonds de défense. Bon, tout ça est très positif, mais... ensuite,
il y a beaucoup de choses conditions à faire. Nécessaires, mais pas suffisantes.
Absolument, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était des jeunes ambassadeurs, tous au COPS, et en fait, on était tout à fait enthousiastes de contribuer à la paix dans le monde et puis de renforcer l'Union européenne également.
Est-ce que c'est avec le même enthousiasme, Sylvie Berman, que vous retournez à l'ONU en 2005, cette fois à la tête de la direction des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie? Rien qu'à énumérer les fonctions de cette direction que vous avez prise, il me semble que c'est un mandat extrêmement lourd, avec une responsabilité très grande qui a été la vôtre entre 2005 et 2011.
Oui, tout à fait. C'est une très belle direction. Donc, il y a les aspects maintien de la paix, instruction au Conseil de sécurité. J'ai beaucoup voyagé à ce moment-là pour aller dans les zones de crise où on avait déployé ces opérations.
Mission de terrain en Haïti, en RDC, au Tchad, au Darfour, au Kenya.
Oui, tout à fait. Et évidemment, c'est intéressant d'être sur le terrain parce qu'on comprend davantage de choses. Donc, je parlais tout à l'heure de l'opération au Tchad, c'est à ce moment-là. Et j'étais au Tchad au moment justement où il y a eu le passage de l'Union européenne à l'ONU. C'était un moment fort également. Alors, il y avait d'autres initiatives dans le domaine des droits de l'homme, en particulier pour le soutien aux femmes qui étaient victimes de la guerre, victimes de viols massifs comme en RDC. Elles l'avaient été également en Bosnie. À l'époque, on ne s'en préoccupait pas. Et un général néerlandais qui avait été en RDC avait dit dans une guerre, il est plus dangereux d'être une femme que d'être un soldat. Donc, il y a eu un certain nombre de résolutions, justement, sur la protection des femmes pendant les conflits, et puis également leur participation au sortir des conflits pour la reconstruction des pays, parce qu'elles jouaient un rôle important. Donc, on a pris beaucoup d'initiatives dans ce domaine. J'avais reçu un groupe de femmes de RDC qui, voulaient qu'on saisisse la Cour pénale internationale, qui s'est mis en place à ce moment-là également. Donc, on a travaillé dans ce domaine de la justice, des tribunaux. Il y a eu aussi la guerre au Liban, puisque en 2006, qui est probablement un des derniers conflits où le Conseil de sécurité a véritablement joué son rôle, puisque il y a eu une résolution décidant d'un cessez-le-feu. Ça avait été négocié auparavant. Alors bon, comme moi j'étais directrice, j'envoyais les instructions, mais c'était Jacques Chirac qui parlait avec le premier ministre libanais, qui lui-même contactait le Hezbollah, et de l'autre côté, les Américains parlaient aux Israéliens. Et c'est aussi quand on a eu cet accord sur les contours de la résolution, qu'on a pu passer au Conseil de sécurité où la négociation s'est terminée. Et j'étais allée d'ailleurs au moment du vote, qui là aussi était un temps fort dans la mesure où on s'était beaucoup investi pour la négociation. Et puis ensuite, on a mis en place la FINUL renforcée, avec un mandat beaucoup plus fort que le précédent, et 2000 soldats français y ont contribué. C'était un peu la première fois que les soldats français revenaient dans une grosse opération des Nations Unies.
Et puis l'intervention russe en Géorgie en 2008, la prise d'otages de passagers de la compagnie du Ponant au large de la Somalie. Alors là, vous n'avez pas chômé, vous ne vous êtes pas ennuyé, mais je vais poser la question de façon beaucoup plus triviale, Sylvie Berman. Il me semble que c'est une responsabilité gigantesque que vous aviez là, avec des dossiers très sensibles, très délicats. Certains ont encore une très forte résonance dans l'actualité. Comment arrive-t-on à diriger autant d'opérations à la fois, à garder son calme, à garder un sang-froid en toutes circonstances?
Alors d'abord,
vous voulez y garder, je ne sais pas.
Oui, non, mais j'étais à la tête d'une équipe, c'était une très grosse direction, mais c'était aussi une équipe très compétente. Et avec le décalage horaire, pour envoyer les instructions à New York, bon, à Genève, c'était plus facile parce que c'était la même heure, sur les questions droits de l'homme, Conseil des droits de l'homme, ou tous les autres sujets en matière de santé ou autres, les élections également dans les systèmes des Nations Unies. Et c'est une direction dans laquelle on travaillait très très tard le soir. Je veux dire, tout le monde, aussi bien les jeunes rédacteurs que les sous-directeurs ou moi-même, on était tout à fait engagés dans ce qui était plus qu'un travail, qui est un peu une vocation. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le multilatéral et les liens qu'on crée avec nos partenaires également.
Est-ce qu'on arrive en toutes circonstances à garder ces distances, précisément? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont affecté particulièrement pendant cette période?
Ah, la question, le Rwanda, oui, le génocide au Rwanda m'a beaucoup affecté. Parce que justement, on se demande toujours ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu faire de différent. Et puis j'avais les comptes rendus tous les jours des ONG sur ce qui se passait. Donc ça m'a effectivement beaucoup affecté. Et par la suite, j'ai continué, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai essayé de comprendre aussi ce qui s'était passé. Et puis effectivement, comment on a pu laisser se dérouler un véritable génocide. Et les premiers qui avaient employé le terme de génocide, c'était les Israéliens.
C'est pas rien aujourd'hui, puisque nous enregistrons en février 2024 ces émissions, Sylvie Berman. La question génocide ou pas se repose à propos de Gaza. Est-ce que vous diriez, vous qui avez quand même vécu un certain nombre d'années, ces relations multilatérales, ces questions de négociation à l'ONU, qu'elles sont complètement au point mort? Comment comprenez-vous qu'il ne se passe rien aujourd'hui?
C'est malheureusement le retour de la guerre, le retour des empires, et ça c'est très difficile de réagir contre l'utilisation de la force par un membre permanent du Conseil de sécurité, comme c'est le cas en Ukraine. À partir de ce moment-là, le Conseil est totalement paralysé. Et ce qui est inquiétant par la suite, c'est que, en fait, ce Conseil, dans sa forme actuelle, n'a plus de réelle légitimité, puisqu'il est issu de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les vainqueurs de l'époque. Et aujourd'hui, ça n'a pas de sens, parce que beaucoup de pays qu'on appelle du Sud global ne sont pas représentés. Le Brésil, bien sûr, l'Afrique du Sud et d'autres pays. Il y avait les quatre candidats traditionnels qui étaient Inde, Japon, Brésil et Allemagne, qu'on a soutenus, qui sont légitimes. Mais pendant plus de 10 ans, même plus, maintenant ça doit faire 20 ans, on avait des réunions avec eux, on les soutenait, on négociait, et il n'y a jamais eu d'accord sur le sujet. Parce que les Américains ne voulaient pas changer la composition du Conseil qui leur était favorable, puisque c'est 3-2. Les Russes conservateurs non plus. Les Chinois étaient hostiles à la participation du Japon et de l'Inde. Et dans les autres candidats, le Mexique ou l'Argentine ne voyaient pas d'un bon œil les Brésiliens y entrer. Donc c'est extrêmement difficile de le réformer. Mais je crois que c'est indispensable aujourd'hui. Le monde ne peut plus être dirigé par les 5 permanents. En revanche, la question du veto ne sera pas réglé parce que si on a institué le droit de veto dans les Nations Unies, c'est parce que la SDN avait été impuissante. Dès lors qu'un État était critiqué ou condamné, il quittait carrément la SDN, on l'a vu avec le Japon. Donc il avait fallu rassurer les grandes puissances. Et c'est pour ça que c'est pas si simple de supprimer le droit de veto ou de l'aménager. Mais je pense qu'une fois ces guerres, ces conflits terminés, enfin il y a toujours des conflits, il y en a d'autres dont on parle jamais, hein. Il y en a au Soudan du Sud, au Darfour les choses vont mal aussi, au Yémen c'est pas réglé, il y a beaucoup d'autres conflits dont on ne se préoccupe absolument pas, ce que d'ailleurs nous ont reproché beaucoup de pays du Sud global, quand on a voulu les convaincre de soutenir la position occidentale sur l'Ukraine. Et donc il faudra réformer cette gouvernance internationale, on ne peut pas simplement y renoncer, mais aujourd'hui ce n'est pas le droit qui s'impose, malheureusement c'est la force et la violence, c'est un retour aux guerres des siècles précédents.
Vous qui avez vécu en Chine, en Russie, qui avez travaillé à New York, donc dans cette triangulation, est-ce que vous diriez qu'on assiste aujourd'hui à un nouveau front, peut-être d'un côté la fin de l'arrogance occidentale, mais un nouveau front qui serait composé d'un pôle Chine-Russie et d'un pôle Amérique-Europe ? Et sachant que l'Amérique et l'Europe ne vont pas forcément ensemble dans les mois ou les années à venir aussi.
Non, surtout.
Comment se recompose le monde?
Le monde, d'abord, je pense que les lignes de force déterminantes, c'est la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Une nouvelle guerre froide, un peu pour. La première place, c'est ce qu'on a appelé le piège de Thucydide, où la puissance confirmée a peur de la puissance montante. Et donc, c'est ça la principale ligne de force. Mais évidemment, aujourd'hui, il y a une forme de distraction, au sens pascalien du terme, hein, avec la guerre en Ukraine, mais qui n'intéresse déjà plus les États-Unis, puisque leur priorité, c'est l'Asie et l'Indo-Pacifique, donc la Chine. Mais c'est vrai que des pays comme la Chine et la Russie soutiennent un monde multipolaire parce que ils ont plus de marge de manœuvre et donc on retrouve cette rivalité donc dans ces pays émergents dont on se partage les faveurs d'une certaine manière et pour le moment ils sont plus à l'écoute de la Chine ou de la Russie que des pays occidentaux. Donc il y a une forme de diminution de l'influence et de la fin du monopole de la puissance en Occident. Ça, c'est une réalité.
Vous qui avez été pionnière dans votre carrière, Sylvie Berman, vous ne voudriez pas poser votre candidature pour les Nations Unies ?
Alors, c'est... ce sont des hommes politiques, d'anciens ministres ou chefs d'État, donc la question ne se pose absolument pas.
C'est bien dommage. Merci Madame l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Sylvie Berman, réalisation Angélique Thibault, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.